journal, Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'accès de fièvre des blouses blanches, grève générale dans les hôpitaux franciliens aujourd'hui. Trop de travail, trop de violence à l'hôpital. Autre procès, autre verdict. Abdelkader Merah condamné à 30 ans de prison cette nuit. Cette fois, les juges l'ont reconnu complice des crimes de son frère. Quand le débat sur la reconstruction de Notre-Dame remplace le débat sur l'Europe, la droite et l'extrême droite contre l'hérésie du modernisme architectural, on l'entendra. Alors que votre invité, dans 20 minutes, Nicolas, pose la question de l'identité européenne.
Oui, on est en amorce de la semaine spéciale qui va démarrer lundi prochain. France Inter sur l'Europe, sur son histoire, ses artistes, ses intellectuels, les élections évidemment prochaines. Et c'est la philosophe Barbara Cassin qui est notre invitée tout à l'heure dans le grand entretien. Vous pouvez dialoguer avec elle au 01 45 24 7000.
À la une également, Trump n'a pas conspiré avec les Russes, mais il a peut-être tenté d'entraver l'enquête du procureur Mueller. Nous serons à Washington. On parlera de greffe fécale. Ça ne donne pas envie, mais ça pourrait soigner les allergies. On verra que les bègues savent être éloquents et que Michel Houellebecq a frimé hier à l'Elysée avec sa nouvelle rosette de chevalier de la Légion d'honneur.
France Inter. Mais commençons par un erratum. Hier, à la même heure, dans ce journal de 8 heures, nous avons diffusé un reportage qui laissait penser que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait été sifflé mercredi soir avant de prendre la parole au congrès du syndicat de police Alliance.
C'était une erreur. Notre reporter confirme, ça n'est pas le ministre de l'Intérieur qui s'est fait siffler, mais les images diffusées avant sa prise de parole, des images de violence contre des policiers lors de manifestations des Gilets jaunes, ce sont elles que la salle a conspuées. Nous avons corrigé cette erreur dès 9h hier. Nous le faisons de nouveau ce matin.
Et nous présentons évidemment nos excuses au ministre de l'Intérieur, au syndicat Alliance, aux policiers et à tous nos auditeurs pour la mauvaise interprétation qui a pu donner la diffusion de ce reportage. Voilà, il fallait le dire, c'est dit. L'hôpital face à la violence, Florence, et à des conditions de travail de plus en plus tendues.
Les urgentistes franciliens ont bien une prime de risque. 5,76 € par mois pour affronter la colère des patients et des familles. Hier, le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a annoncé sa revalorisation à 65 € brut, ce qui ne dissuadera sans doute pas les personnels hospitaliers qui ont prévu de manifester sous ses fenêtres aujourd'hui. Grève générale dans la foulée d'une grève des urgences qui s'étend depuis lundi, Lisa Guyenne.
En début de semaine, ils étaient 5. Désormais, ce sont 16 des 25 services d'urgence de l'APHP qui sont en grève. Parmi les nouveaux à rejoindre le mouvement, les urgences pédiatrique de Robert Debré, où Laurent est infirmier depuis 4 ans.
Vu le nombre que nous sommes, en fait, c'est à la chaîne et on n'a pas le temps de les prendre en charge correctement. Des bébés parfois de 7 jours où on doit les piquer et qu'on n'a pas de collègues auxiliaires parce qu'ils ne sont pas en nombre et qu'ils sont sur d'autres soins. Du coup, on est obligé de demander aux parents de tenir leur enfant. Les parents qui, du coup, commencent à être violents verbalement et parfois physiquement, ça devient très difficile de travailler dans ces conditions. En fait.
Pour compenser leurs conditions de travail, les soignants réclament 300 € de salaire en plus. Hier, la direction de l'APHP a tendu la main en proposant une augmentation de la prime de risque jusqu'à 65 € brut par mois, ainsi qu'une prime spéciale de 250 € au titre des heures de nuit. Mais ce n'est pas suffisant pour les grévistes. Abdel est l'un des porte-parole de l'interurgence.
C'est catégoriquement non. On demande une reconnaissance pérenne, c'est-à-dire tous les mois. Ce n'est pas une prime one shot qu'on vous propose une fois dans l'année et ensuite, à ce moment-là, on lâche l'affaire. Non, on ne lâchera pas l'affaire dans ce sens-là. On demande toujours les 300 € par mois, mensuel, net, rien d'autre.
En dehors de Paris, d'autres urgences envisagent à leur tour d'entrer en grève. Nantes, Valence, Aix-en-Provence ou encore Nîmes pourraient rejoindre le mouvement dès la semaine prochaine.
Et rappelons que pendant la grève, les personnels soignants continuent à travailler, continuent à soigner. Les policiers également dans la rue. Aujourd'hui, après 2 nouveaux suicides hier, ils sont 28. 8 policiers à s'être donné la mort depuis le début de l'année. Tous les syndicats demandent à être reçus en urgence par leur ministre Christophe Castaner. Il a donc été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'est 10 de plus qu'en première instance pour Abdelkader Merah. Cette fois, les juges ont estimé qu'il était complice des 7 assassinats de son frère Mohamed, djihadiste tueur de Toulouse et Montauban. Ce qui fait toute la différence pour les familles des victimes. Naoufal est le frère du soldat Imad Ben Ziaten. Il salue ce nouveau verdict.
C'est une fierté. Je me sens soulagé. Je me dis, c'était la seule chose qui était confuse dans ma tête. Est-ce qu'on avait une justice en France ? Et ce soir, on nous a prouvé que oui. On est capable d'aller jusqu'au bout. On est capable de mettre les terroristes à genoux. Et nos soldats, on est capable de les rendre fiers. J'avais douté, j'avais parlé beaucoup à mes parents, de leur dire que je quitterais le pays si le verdict n'était pas correct. J'ai prié ce matin, j'ai beaucoup prié, et j'ai l'impression qu'Imad nous a entendus, et voilà, une réussite.
Naoufal Ibn Ziaten, frère du premier des trois militaires tués par Mohamed Merah, qui a ensuite assassiné trois enfants et un professeur d'une école juive de Toulouse. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Florence.
Les juges de la cour d'assises spéciale ont mis 12 heures à rendre leur verdict tard hier soir. Qu'est-ce qui les a amenés cette fois à considérer Abdelkader Merah comme le complice de son frère?
Alors c'était, il faut le rappeler Florence, un verdict très attendu. La France nous regarde, avait lancé l'avocat général, car c'était le premier procès des attaques terroristes djihadistes qui ont frappé notre pays, et la cour d'assises spéciale a lancé un message en condamnant, malgré l'absence de preuves formelles et absolues, Abdelkader Merah pour complicité dans les crimes de son frère, en fondant son intime conviction sur un faisceau d'éléments à charge. Le point principal, c'est le vol du scooter, 5 jours avant le premier assassinat, un vol en réunion commis par les deux frères, par lequel Abdelkader Merah apporte aide et assistance à Mohamed Merah, écrivent les juges, une complicité attestée aussi par leur rencontre avant et pendant les crimes. L'absence de contact téléphonique démontre pour les magistrats leur volonté d'échapper à tout contrôle, suivant en cela les recommandations des fichiers d'instruction au djihad retrouvés sur le lecteur MP3 d'Abdelkader Merah. Alors la cour n'a pas suivi l'accusation qui réclamait la perpétuité. En condamnant Abdelkader Merah à 30 ans de réclusion criminelle, les juges font la distinction entre le complice et l'auteur principal, Mohamed Merah, tué dans l'assaut du raid, incompréhensible pour Éric Dupond-Moretti, qui dénonce une condamnation sans preuve. Pour l'exemple, l'avocat d'Abdelkader Merah envisage de se pourvoir en cassation.
Corinne Audouin, les policiers et les gendarmes de nouveau sur le pont demain samedi pour l'acte 23 des Gilets jaunes à Paris. Manifestation interdite aux Champs-Élysées et aux abords de Notre-Dame de Paris pour des questions de sécurité.
Notre-Dame et sa reconstruction, 8h07. La controverse est lancée, Florence, entre les anciens et les modernes.
Et les querelles politiques ont repris leurs droits, comme disait Emmanuel Macron. À 5 semaines des européennes, Nathalie Loiseau pour la majorité et Marine Le Pen pour le Rassemblement National tiendront meeting ce soir avec l'Europe en toile de fond, Maxence Lambrec, et la cathédrale en premier plan.
Oubliez l'espace Schengen, les travailleurs détachés et la zone euro, vive le patrimoine, l'architecture, le mécénat. Marine Le Pen va proposer ce soir un discours 100% Notre-Dame avec un angle d'attaque. Moderniser cette cathédrale, ce serait une profanation de Macron. Elle veut jouer la carte du conservatisme et des racines chrétiennes, comme son adversaire LR, François-Xavier Bellamy.
Il ne faut pas que nos gouvernants soient pris d'un excès d'orgueil. Nous ne sommes pas là, comme politique, pour apporter notre touche à cet héritage, mais d'abord pour faire en sorte que ceux qui sauront le restaurer puissent mener à bien leur mission.
Notre-Dame s'invite donc dans la campagne. Ce n'est pas le président qui va décider du temps que prend un chantier, tacle Raphaël Glucksmann. On ne va pas refaire une flèche en plexiglas, mais restons ouverts aux innovations, ajoute un proche de l'écolo Yannick Jadot. Et pourquoi pas sur le toit, un jardin participatif ou des panneaux photovoltaïques, plaisantent les insoumis qui s'attaquent par ailleurs aux riches donateurs et à leurs déductions fiscales. Chacun prend donc position pour refléter sa sensibilité et animer une campagne qui ne passionne pas les Français.
Voilà qui rappelle les heures les plus sombres du conflit nord-irlandais. Une femme de 29 ans a été tuée par balle hier à Londonderry en pleine émeute après la perquisition policière d'une maison considérée comme un fief nationaliste. Nous traitons cet événement comme un incident terroriste, a déclaré la police nord-irlandaise. Donald Trump et son équipe ont-ils conspiré avec les Russes pendant la campagne présidentielle? Non, répond le procureur Mueller qui a rendu son rapport hier, ce qui a permis au président de fanfaronner sur Twitter sur le thème « Je vous l'avais bien dit ». En revanche, son attitude quant à l'enquête pose question, Grégory Phillips. Plusieurs passages du rapport Mueller font état de scènes où Donald Trump tente d'entraver la justice.
Le 17 mai 2017, au matin, le numéro 2 du département de la justice, Rod Rosenstein, annonce au président qu'un procureur spécial indépendant vient d'être nommé pour enquêter sur les soupçons de collusion entre son équipe de campagne et la Russie. Dans le bureau ovale, Donald Trump s'effondre dans son fauteuil. « Je suis foutu, c'est la fin de ma présidence », déclare-t-il, selon le témoignage d'un employé du ministère. Un mois plus tard, le 17 juin, Trump téléphone à l'un des avocats de la Maison-Blanche, Don McGahn, et il lui demande d'enclencher une procédure pour limoger Robert Mueller. Le conseiller refuse, mais l'ordre a bien été donné. Tout au fil de ces 448 pages, d'autres exemples sont cités. À plusieurs reprises, Trump a suggéré à ses collaborateurs de mentir à la presse ou devant le Congrès. Au total, le procureur spécial recense une dizaine d'incidents de ce type. Mais il conclut, si nous étions certains que le président n'avait pas fait d'entrave à la justice, nous l'aurions écrit. Or, nous n'avons pas pu parvenir à cette conclusion. En clair, les enquêteurs ne veulent pas trancher sur une éventuelle obstruction de la part du président. Ils laissent au Congrès le soin de le faire. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Oui, certains à la gauche des démocrates envisagent de lancer une procédure de destitution qui n'aurait aucune chance puisque ce sont les républicains qui tiennent le Sénat. Paris réfute les accusations du ministère libyen de l'Intérieur. Non, la France ne soutient pas l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli, dit l'Élysée. Ça n'est pas la France qui bloque la résolution britannique à l'ONU pour un cessez-le-feu, bien au contraire. Les États-Unis et la Russie s'y sont de nouveau opposés cette nuit à New York. Carlos Ghosn évincé, Nissan change de stratégie. Le constructeur annonce une réduction de 15% de sa production mondiale. La nouvelle doctrine, ce ne sera plus le volume, mais la rentabilité.
Il est 8h11. Attention, ce qui va suivre est peu ragoûtant, mais fort intéressant.
Et oui, je veux parler de la greffe fécale qui consiste à introduire des bactéries intestinales d'une personne saine dans le tube digestif d'un malade pour reconstituer sa flore. Ça marche pour certaines maladies de l'intestin. Ces greffes sur laquelle les recherches sont en plein boom pour être aussi soignées d'autres maux, comme les allergies alimentaires qui touchent 1 à 3% des Français. Pour ces malades d'allergies alimentaires, la greffe est une piste prometteuse évoquée au congrès d'allergologie qui se tient en ce moment à Paris, Véronique Julia.
On le sait maintenant car des études l'ont démontré, les allergiques n'ont pas le même microbiote, la même flore intestinale que les sujets sains. Leur microbiote à eux est souvent plus pauvre, cette pauvreté a un impact sur leur système immunitaire, ce qui accroît le risque d'allergie alimentaire. Le traitement classique aujourd'hui, c'est la désensibilisation, essayer d'habituer l'organisme à supporter l'allergène, mais ça ne marche pas très bien et ça comporte des risques, d'où cette idée récente d'enrichir la flore des patients avec des bactéries qui leur feraient défaut. On a d'abord tenté un apport en probiotiques, mais ça n'est pas très concluant. Karine Billard-Larue est allergologue à l'hôpital de Meaux et l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois.
Pour l'instant, toutes les études concernant les probiotiques, elles sont un peu décevantes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bactéries qu'on n'a pas réussi à identifier la bactérie miracle qui permettrait de ne pas avoir d'allergie.
D'où l'idée qui émerge aujourd'hui, c'est de faire ingérer aux patients allergiques toute la flore intestinale d'un sujet sain. C'est ce qu'on appelle la transplantation fécale.
Le principe, c'est d'apporter au sein d'intestins qui sont déficients, qui n'ont pas certaines bactéries qui leur sont utiles, les bactéries de l'intestin de quelqu'un d'autre, donc de faire manger du microbiote de quelqu'un qui est sain.
Un pari pour l'instant qui vise les allergies sévères. Le traitement n'est pas pour tout de suite, des études sont en cours, les résultats ne sont pas encore connus. Cette transplantation fécale s'administrerait par voie orale via des gélules de microbiote encapsulées.
Voilà, et cette étude est à lire sur franceinter.fr. Être éloquent et bègue à la fois, rien d'antinomique. Vous allez voir avec cette première mondiale, un concours d'éloquence pour personnes bègues a lieu en ce moment en France. De quoi mettre un bon coup de pied aux préjugés. La demi-finale se tiendra demain à Paris, en public, dans un amphithéâtre de Paris Dauphine. Mathilde Dehimi a assisté à la dernière répétition hier soir.
Jérôme respire, secoue ses mains pour se libérer du stress et se lance.
Les pieds comme ça, hop. La France n'a pas peur. Et pourtant,
le temps, est-ce de l'argent, se demande-t-il. Les dés sont-ils jetés, tant un autre. L'herbe est-elle plus verte ailleurs.
Nous pourrions, chacun de nous, nous sentir infiniment riches.
Le groupe s'écoute.
T'étais très passionné, en fait.
Se corrige.
J'en ai trop.
Demain, ils seront jugés par des spécialistes de l'éloquence, raconte Juliette.
C'est la capacité d'argumenter, son propre style, avoir une structure dans son discours, le fait de bégayer, n'est pas du tout vu comme quelque chose de négatif.
Elle a lancé ce concours avec Mouna.
Il y a 7 ans, j'étais incapable de dire 2 mots à la suite. Un tel exercice, c'est le combat d'une vie. Toute cette peur, toute cette phobie, toutes les conséquences liées à l'humiliation, et juste pouvoir s'exprimer, c'est la plus grande de nos victoires.
Et les progrès se voient.
J'ai besoin de défis.
Lynn a dominé son bégaiement pendant sa présentation.
On n'a plus cette crainte qu'on juge les grimaces, les répétitions et les à-coups. Et les mots qui bloquent, on avait cette envie de montrer tous qu'on n'est pas des gens idiots, qu'on a des choses à dire.
L'exploit est déjà là, mais Jérôme ne compte pas s'arrêter et vise désormais des concours d'éloquence non réservés aux bègues.
Lui, on ne peut pas dire qu'il soit très éloquent, tout est dans ses textes. Michel Houellebecq, décoré de la Légion d'honneur, hier soir, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait chevalier. Écho de la cérémonie, signé Cyril Gradiani.
Michel Houellebecq avait prévenu, il ne voulait pas d'une cérémonie people. Il a trié ses invités sur le volet, parmi la trentaine de convives réunis en début de soirée dans le salon des ambassadeurs, Jean-Louis Aubert, Alain Finkielkraut, Frédéric Becbédé ou encore Nicolas Sarkozy. Houellebecq, costume bleu, cravate rouge, pantalon gris, est arrivé avec son épouse. Hier, l'auteur de Sérotonine a reçu sa première distinction française, autre que littéraire. Et c'est Emmanuel Macron qui a épinglé cette légion d'honneur sur sa poitrine. Le président, dans son discours, a beaucoup insisté sur cette méprise autour de l'auteur. « Vous êtes un romantique dans une époque qui est devenue matérialiste ». Le chef de l'État a décrit les personnages de ses romans. Tout ce désespoir chez eux, c'est une affirmation d'espérance, dit-il, avant de railler sa coupe de cheveux, savamment mal entretenue. Quand vous discutez avec Houellebecq, conclut-il, ce ne sont pas des paroles entrecoupées de silence, mais le silence entrecoupé de paroles, sourire dans l'assistance. Le Goncourt 2010 semblait très ému avec un petit sourire malicieux. Il a terminé la soirée en se promenant parmi les siens. À chacun, il a glissé. Je frime.
Michel Houellebecq qui biche avec sa rosette.
Merci Florence Paracuelos.